Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour. Je suis ravie aujourd'hui de reprendre en live toutes ces interviews et évidemment, comment ne pas commencer cette jolie semaine avec Madame Julien Elkaïm, Karine Julien Elkaïm. Bonjour Madame.
Bonjour Madame.
Alors, vous avez deux rôles importants, présidente de Polylogie et présidente du comité du directoire de Logirep. Est-ce qu'aujourd'hui, ce fait d'avoir une direction dans un organisme qui est un organisme polyproduit, polyservice, ne vous donne pas quelque part une flexibilité et une envie de faire plein de choses?
Ah oui, effectivement, c'est vraiment une chance de pouvoir justement travailler dans un groupe qui est finalement sur toute la gamme, surtout dans les périodes comme aujourd'hui où il faut vraiment se réinventer. Ça permet justement de pouvoir proposer beaucoup de solutions, de produits, réfléchir à différents produits, puisqu'on est sur toute la gamme, c'est-à-dire du logement social jusqu'à la promotion privée sociale, l'administration de biens, la gestion de copropriété. Donc on est quand même.
Et j'ai cru comprendre que dernièrement, vous aviez fait l'acquisition d'une société pour faire de la surélévation. Encore un produit de plus.
Exactement. On a donc depuis juillet la chance d'avoir Upfactor au sein du groupe. Donc Upfactor qui est une des solutions justement pour réfléchir à la surélévation. Et pour nous, c'est une vraie chance parce que ça permet justement de travailler et sur le patrimoine des sociétés HLM du groupe, mais aussi de pouvoir proposer une solution aux copropriétaires. Pour pouvoir financer en fait les travaux énergétiques avec la surélévation. Voilà.
Et alors comment justement c'est accueilli comment dans les copropriétés le fait d'avoir au-dessus de sa tête deux étages de plus, mais effectivement en se disant quelque part ça me permet d'avoir une isolation thermique formidable, dépenser moins d'argent en charge. C'est bien accueilli?
C'est plutôt bien accueilli, surtout actuellement où il y a des travaux énergétiques à faire et qui sont assez importants. Donc ça permet pour les copropriétaires de financer une partie de leurs travaux, tout ou partie d'ailleurs, puisque dans certaines opérations qu'on a à l'heure actuelle, on finance tout grâce à ça. Et puis ça permet aussi d'améliorer l'existant, puisqu'en fonction des typologies de résidences, on peut être amené par exemple à travailler sur le chauffage, à refaire les parties communes, voire mettre des ascenseurs quand il n'y en a pas, etc. Donc ça améliore aussi beaucoup l'existant. Et il y a tout un travail à faire de pédagogie sur le côté technique.
D'accompagnement, de médiation.
Ouais. Et puis surtout le côté technique, parce qu'effectivement, ceux qui sont au dernier étage peuvent se dire que ça est un problème. Ouais. Puis finalement, ils trouvent c'est plutôt intéressant, parce que souvent, quand on est dans les derniers étages...
On est moins bien chauffé.
ou trop chauffé l'été. Ouais. Et finalement, pour eux, ça a un intérêt de pouvoir travailler, pour avoir un étage de plus ou deux, parce que souvent on en fait deux, et de pouvoir justement travailler sur le côté énergétique de leur appartement. Mais c'est vrai que c'est long. Quand je dis que c'est long, c'est que c'est tout un travail pédagogique de beaucoup de copropriétaires.
Alors, je suis rentrée dans le vif du sujet parce que j'estime que nos auditeurs, qui sont tous des sachants du métier, vous connaissent et connaissent le groupe Polylogie. Donc, je voulais pas trop rentrer dans les chiffres, etc. Mais on va quand même rentrer un petit peu dans les chiffres puisque vous avez donc cette chance d'avoir tous les produits, tous les services, et donc du coup de pouvoir me dire quelque part quelle est la proportion entre le neuf et la réhabilitation dans ce groupe aujourd'hui, pour quand même essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, dans la mesure où aujourd'hui on voit moins de grues, on voit moins de neuf, mais quelque part la problématique du logement et de se loger, est criante.
Alors, au niveau du groupe, comme on a donc différentes activités, au niveau des bailleurs sociaux aujourd'hui, on a une activité réhabilitation qui est extrêmement importante.
C'est quoi, deux tiers, un tiers ?
On est plutôt sur, on va dire, 40% D'accord. construction, 60% réhabilitation. Mm-hmm. Mais on a une activité aussi promotion importante. Et notamment, ce qui nous permet aujourd'hui, nous, de continuer à construire au niveau de la promotion, c'est parce que depuis 2-3 ans, on a travaillé avec notre structure interne d'aménagement sur le développement de l'offre au sein même de nos emprises foncières.
D'accord.
Et donc ça, aujourd'hui, ça fait partie des éléments extrêmement importants parce que les dossiers qu'on a commencé à lancer il y a 3-4 ans, commencent à sortir et vont continuer à sortir dans les 5 ans qui viennent, puisque un projet de réhabilitation, de rénovation urbaine, c'est à peu près 10 ans entre le moment où on commence à discuter et le moment où les derniers logements sortent de terre.
Donc on est d'accord, c'est de la rénovation urbaine propre. Donc, on n'est pas dans le cadre d'un ANRU classique.
Non,
on va
c'est
dire.
Financé intégralement
par les fonds propres et par le groupe.
Oui.
Et donc, du coup, ça veut dire que vous discutez avec les élus, avec votre société d'aménagement, avec les élus, avec les différents partenaires au sein du groupe des différents produits sur le meilleur des plans masse, la meilleure des solutions.
Exactement, c'est tout à fait ça, en fonction des dossiers. Quand on fait des études, justement, quand on commence à avoir des réflexions sur la réhabilitation du patrimoine, on fait des études beaucoup plus larges, en se disant sur cette emprise, sur ces résidences, est-ce qu'il y a la surélévation à faire, est-ce qu'on pourrait faire de la densification, est-ce que les immeubles sont obsolètes ou pas, parce qu'il y a quand même beaucoup d'immeubles qu'on a pu construire dans les années 70-80, où il n'y a pas forcément l'ascenseur à tous les étages, etc., ou même la manière dont ils ont été construits sur l'emprise, on peut tout à fait l'améliorer. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, on a lancé pas mal de projets de rénovation urbaine propre pour aussi travailler sur la mixité au sein de ces résidences, en faisant de l'accession au milieu de ces résidences.
Donc, éventuellement, je suis locataire d'un T5 dans votre patrimoine, mes enfants sont partis, je suis seule ou en couple, et je me retrouve dans une situation où je sais que quelque part, je vais aller prendre ma retraite dans une dizaine d'années, j'essaye de me dire comment je vais faire pour pouvoir... faire ce chemin-là. En tant que locataire, je peux avoir quelque part un appartement juste au pied de ma résidence, dans la résidence, personnes âgées que vous allez construire.
Ça peut être le cas. Après, ça dépend des besoins. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est sur des publics qui ont plus de 60 ans, on travaille avec eux sur leurs besoins, parce qu'en fonction, effectivement, souvent les T5 c'est trop grand, mais quand on leur propose un T2 avec les nouvelles normes dans le logement social, c'est souvent plus cher que leur ancien T5.
Oui, c'est ça.
Donc c'est là où on travaille sur d'autres typologies de produits. Effectivement, si on est amené à créer une résidence autonomie ou une résidence intergénérationnelle, on peut très bien leur proposer d'avoir un logement dans cette résidence. Mais quand on est aussi sur de la construction neuve, ça peut être aussi un projet pour eux, pour après, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, de pouvoir devenir accédant à la propriété, parce que peut-être qu'ils ont des moyens, justement, parce que quand on a 60 ans, emprunter, c'est pas possible, mais en tout cas, ils ont peut-être la possibilité d'avoir des fonds qui leur permettent de devenir accédant à la propriété. Mais ça, l'accession à la propriété, on est plutôt sur les plus jeunes publics, parce qu'ils ont la possibilité d'emprunter pour pouvoir
sur du long terme.
Exactement.
Alors, ce jeune public, c'est sûr qu'aujourd'hui, la pyramide des âges fait que les baby boomers commencent à être, à la retraite ou en voie de l'être. Les jeunes, souhaitent décohabiter et malheureusement se retrouvent dans ce genre de situation d'entre-deux. Comment fait-on pour avoir cette information qui est donnée par Polylogie au sein du patrimoine pour expliquer aux différents types de locataires qu'ils peuvent être copropriétaires demain, locataires d'un autre appartement après-demain, ou comment cette dynamique fonctionne? Parce que quand on a multiproduits, on a envie que son public le sache.
Alors, on fait beaucoup de communication, nous, envers nos différents typologies de clients, et notamment les locataires. Quand il y a de la vente HLM, soit sur la résidence où ils sont, et donc là, il y a beaucoup de réunions d'informations, parce que pour un locataire, c'est très stressant au départ quand il apprend que potentiellement on va mettre sa résidence en vente. Donc, on fait beaucoup de réunions d'informations. Et notamment, dans ces réunions d'informations, ce dont on se rend compte, c'est que beaucoup de locataires ne pensent ne pas pouvoir devenir accédants à la propriété, alors que finalement, quand on étudie avec eux leur situation, eh ben ils peuvent tout à fait le devenir.
Ça commence par un stress et ça finit par une petite bouteille de champagne.
Après, ça peut finir par des bonnes nouvelles. Ouais. Globalement, aujourd'hui, on a à peu près 40% en fait des accédants dans le parc HLM qui sont des locataires du groupe. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Puisque nous, ça permet vraiment de travailler sur cette mixité et cette mobilité résidentielle au sein du patrimoine.
Au sein du parc. Et alors, bon, ça, c'est quand les élus sont d'accord, puisque vous les interrogez. Vous interrogez monsieur le préfet et monsieur ou madame le maire ou madame la préfète, évidemment, sur cette problématique de transformer une résidence HLM en résidence à la copropriété. Qu'est-ce qui fait qu'il y a parfois des freins et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est accordé, pas accordé, la proportion à peu près?
En gros, on a à peu près une opération sur deux, une qu'on nous on souhaiterait mettre en vente, qui ne va pas au bout. Et ensuite, ça dépend en fait un peu des maires et notamment de leur souhait d'avoir un certain pourcentage de logement social. Alors soit pas trop élevé, soit très élevé, ça dépend après des collectivités. Mais effectivement, on a quand même une opération sur deux où le maire nous dit qu'il ne souhaite pas qu'on la vende. Mmh. Et comme nous, on a une relation de proximité très proche avec les collectivités, puisque en fait, on est sur le territoire,
bien sûr,
on fait en sorte de pouvoir travailler intelligemment avec les collectivités. Donc, on va rarement contre l'avis du maire.
Oui.
Et au niveau du préfet, on est plutôt sur la reconstitution quand on fait de la vente,
d'accord,
par rapport aux agréments qu'on peut demander, etc. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est plus compliqué, notamment quand on est dans des périodes pré-électorales.
Bien sûr.
Voilà. Mais bon, après, c'est vrai que pour nous, c'est extrêmement important de faire ces ventes HLM parce qu'il y a pour nous deux vertus. La première, c'est cette mobilité au sein du parc, permettre à des locataires de devenir accédants. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il n'y a quasiment plus d'aides de l'État et de subventions, etc., c'est un des moyens pour nous de continuer à construire et donc de proposer une offre nouvelle. Donc, c'est vraiment extrêmement vertueux pour le mouvement HLM.
Bon, on n'a parlé que de belles choses, mais je ne suis pas sûre qu'on ait fini. Qu'en pensez-vous?
Ah bah
deuxième
oui,
interview,
fait.
On revient. Oui. Merci, chers auditeurs, et à bientôt sur nos antennes.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio.